Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et j'ai besoin de toute votre attention ce matin car c'est le sujet que nous allons aborder jusqu'à 13h avec mes invités. Claire Lauzol, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Vous êtes ingénieure de formation, consultante, formatrice et coach. Et vous avez développé une expertise en conduite du changement, dites-vous.
Absolument.
Et le changement, c'est maintenant.
Eh bien, absolument, dans les habitudes qui concernent l'attention.
Vous êtes venu avec Didier Noyer, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes spécialiste du développement des ressources humaines et auteur de nombreux livres sur la communication, donc que vous avez écrit avec Claire Lauzol, certains. Et vous êtes là pour nous parler de l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction chez Erol. Comment allons-nous faire pour capter l'attention de notre auditoire ce matin ? Vous, Didier, vous avez mis un pull rose, donc ça sera parfait.
Oui, c'est un début.
Ça sera parfait pour la vidéo. Mais c'est une vraie question. Vous expliquez que un grand orateur utilise un truc. Il dit, il ne restera sans doute pas grand-chose de ce que vous avez entendu dans 3 mois, mais il y a un truc que je voudrais que vous reteniez, c'est que notre cerveau n'est pas multitâche, par exemple. Mmh. C'est un mythe.
Alors ça, c'est un... Merci de parler de ce sujet. Le jour où nous aurons tous intégré que le multitâche est un mythe, ben nous aurons fait un grand pas. Dans les pratiques de notre quotidien, vous êtes sur votre téléphone et puis vous répondez à la personne qui est en face de vous, à côté, vous êtes interpellé et vous tapez vos mails quand vous êtes dans votre entreprise. Et vous avez l'impression que vous faites très bien les deux. Mais c'est un leurre parce que notre attention n'est capable d'être divisée, donc sur deux tâches en même temps, que si l'une des deux tâches est automatique, automatisée. Par exemple, marcher et parler à votre ami. Ça, c'est possible. Mmh. Mais faire un mail qui demande un minimum de concentration tout en écoutant la réunion ou la conversation qui est à côté, ça n'est pas possible en même temps.
Et pourtant, il y a un sondage récent qui disait que chez les cadres, qu'ils décrochaient au bout de 52 minutes en réunion. Et ce qui me paraissait long.
Non, c'est ce que j'allais dire.
Ça me paraissait très très long, 52 minutes.
Ouais. Bien plus tôt, parce que souvent, ils ont leur téléphone dans la main, et dès qu'il y a une petite notification, ils jettent un coup d'œil. Ou certains regardent leur mail sur le portable. Donc les gens sont très perturbés, passent d'une chose à l'autre, et ça a un vrai impact sur l'efficacité du travail et sur le sentiment de satisfaction, parce qu'en fin de journée, on se dit, bon, j'ai beaucoup jonglé, j'ai réagi à des sollicitations, mais finalement, est-ce que j'ai fait l'essentiel de mon travail ? Bah, pas forcément. Donc les gens sont pas très heureux et pas très efficaces. Et ça, c'est un phénomène qui s'est complètement accentué depuis une quinzaine d'années.
Oui, vous avez l'impression qu'en faisant plus de choses en même temps, vous en faites plus, mais quand on regarde, vous êtes moins productif, final.
Oui, mais on ressent un petit plaisir parce qu'il y a une petite décharge de dopamine dès qu'on voit une nouveauté, une notification, on se dit tiens c'est peut-être intéressant et finalement ça nous fait plaisir quelque part. Donc c'est ça qui provoque petit à petit une espèce d'addiction aux nouveaux événements qui nous arrivent.
Vous prenez des exemples dans votre livre. Alors si vous recevez une notification sur un de vos enfants, alors je suis chez vous là, votre fils qui par exemple est tombé dans la cour de l'école ou a oublié quelque chose en classe, vous pouvez être sûr que vous décrochez complètement.
Obligatoirement. En fait, d'abord, la notification capte votre attention immédiatement. C'est soit un bruit, soit une lumière, un son, quelque chose qui de toute façon va activer votre système attentionnel. C'est involontaire, c'est normal, vous n'y pouvez rien. Et une fois que c'est fait, si vous avez détecté qu'il s'agissait de votre fils, alors là, c'est terminé. Enfin, quelqu'un d'important pour vous.
Oui. Voilà. Vous partez. En fait, là,
votre esprit est parti ailleurs. Et en toute logique, ce que vous seriez censé faire, c'est prendre soin de ce qui est en train de se passer. Donc, vous arrêtez et vous occupez de ce qui est important.
Et après, vous remettez un temps fou à vous reconnecter à ce que vous étiez en train de faire. C'est ça qu'il faut comprendre.
Absolument. En fait, quand on regarde dans la vie d'un cadre, à peu près toutes les 12 minutes, un cadre est interrompu. S'il est impliqué dans une tâche qui nécessite une forte concentration, il va lui falloir environ 23 minutes pour se reconcentrer à nouveau. Donc vous imaginez le temps que ça représente dans une journée de travail.
Regardez et observez en entreprise le nombre de personnes qui ont leur portable sur leur poste de travail.
Oui, et pendant les réunions aussi.
Ouais, mais pendant, et non, et pendant les réunions, c'est le principe, les réunions. Surtout maintenant que les réunions sont en distanciel, alors là, c'est encore plus peinard.
Oui, parce que ça se voit à peine que...
Ça se voit pas que vous êtes sur votre portable.
C'est
oui.
ça.
Mais ce qui veut dire que les gens ne sont plus complètement à ce qu'ils devraient faire, ce pour quoi ils sont payés.
C'est ça. Et le vrai sujet, c'est que non seulement ils ne sont pas complètement à ce qu'ils devraient faire, en ayant le sentiment que malgré tout, ils sont productifs et efficaces, sur un certain nombre de tâches, c'est vrai, mais si vous êtes dans une réunion où vous traitez vos mails en parallèle parce que vous n'êtes pas intéressé par ce qui est en train d'être dit, très bien, il faut peut-être repenser la manière dont la réunion a été construite, et aussi l'organisation tout simplement du temps, parce que de toute façon, votre attention, elle va se focaliser sur ce que vous êtes en train d'écrire, de lire, et ce à quoi vous répondez. Elle ne peut pas être en même temps utile et efficace sur ce qui se passe à côté dans la réunion. Mmh. Ça, c'est pas possible.
D'ailleurs, faites un test. En sortant de la réunion, demandez aux gens de quoi ça a parlé.
Ah.
Bien sûr, oui. Mais alors, au-delà du travail, il y a des sondages qui mettent en évidence que les adultes passent une dizaine d'heures par jour derrière un écran, à regarder un écran. Et il y a seulement un tiers de ce temps qui est consacré à du travail. Donc, il y a aussi beaucoup de temps passé à regarder des petites vidéos, à faire des jeux, à scroller pour voir qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et ça finit par faire une véritable addiction qui perturbe, qui gâche la vie des gens et dont ils peuvent pas se sortir. C'est de l'addiction parce que, pas pour tous, quelquefois c'est simplement une consommation excessive, mais pour certains, ça bouleverse leur équilibre émotionnel, ça perturbe leur vie, et puis ils se disent, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je peux pas m'en passer. Et si on les prive de leur téléphone, là, il y a une vraie souffrance.
Vous me permettez de raconter une anecdote ?
Allez-y.
J'étais invitée dans une émission de web TV. J'ai le droit de
citer. Ah, Lévis, c'était là, c'est fêteur de la pub, il la mérite.
Il la mérite vraiment, donc ouais. Chez Bismart. Et donc le jeune homme qui m'accueille très gentiment, est monteur, et très gentiment aussi, il m'interroge sur le livre. Il me dit, mais en fait, ça parle de nous, sous-entendu, nous les plus jeunes, avec nos smartphones. Je lui dis, ça parle de vous, mais ça parle de tout le monde. Il me dit, moi, en fait, il y a quelques semaines, mon téléphone est tombé en panne, hein, et donc, il fonctionnait plus. Il me dit, j'ai passé les deux premiers jours, c'était les deux pires jours de ma vie, et les deux jours qui ont suivi, c'était les deux meilleurs jours de ma vie. Je dis d'abord merci de me raconter cette anecdote, et je dis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Il me dit, j'avais pris un certain nombre de bonnes résolutions que je n'ai pas forcément tenues dans la durée, et je sais pourtant que ça n'est pas forcément très bon pour moi, pour ma santé. Il dit, par ailleurs, je fais très attention à moi, je fais du sport, je fais attention à mon alimentation. Mais ça, c'est vrai, c'est difficile. Voilà.
Donc, c'est pas ce qu'il a fait après.
Qu'est-ce
qu'il a refait dans les deux autres jours, alors? Il a retrouvé un téléphone.
Il a retrouvé, une fois qu'il a eu son téléphone, en fait, il a repris ses habitudes. Voilà. Mais je lui ai aussi, c'est pas que je l'ai dédouané, mais je l'ai aussi rassuré en lui disant, mais en fait, c'est normal, vous n'y pouvez pas grand chose. Ce qui s'active dans votre cerveau, c'est par-delà votre volonté. Ça s'appelle le circuit de la récompense. Donc, il n'y a que le fait d'en prendre conscience et de vouloir faire autrement qui va changer les choses.
Bon, je vous ai proposé ce sujet en début de mois de Ramadan parce que là, il y a un mois. Donc, beaucoup d'entre vous veulent reconquérir leur attention parce que beaucoup d'entre vous ont pris des bonnes résolutions. Tout le monde s'est dit, je vais lire le Coran une heure par jour. De toute façon, je récupère une heure de déjeuner. Donc, je vais faire plein de choses formidables. Et comme tous les ans, souvent, à la fin du mois de Ramadan, vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Et que, en tout cas, pas tenu vos engagements, en tout cas, votre to-do list. Et surtout que vous avez été... piraté par vos pensées, par vos propres pensées. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez armé de bonnes intentions, mais le pire ennemi, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous commencez à vous concentrer, et bim, hop, il y a une idée qui arrive, et c'est fini. Comment on explique ces idées qui arrivent justement à détourner votre attention ?
C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer l'attention et la concentration. La concentration, on veut se focaliser. On veut se focaliser sur un sujet, sur un travail, etc. Et on est dans une bulle, mais c'est pas une bulle complètement imperméable. Il se passe des choses de l'extérieur ou il se passe des choses dans notre tête et ça vient un petit peu perturber la focalisation qu'on avait. Et c'est normal. C'est normal. Ce qui est embêtant, c'est si on devient prisonnier de cette idée qui émerge. Donc, si on veut cultiver son attention, il faut s'auto-observer. Il faut se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Tiens, j'ai une tentation d'être distrait. Et je choisis de revenir à ce que j'étais en train de faire. Mais le problème, c'est que si on a passé trop de temps à être sur les écrans du téléphone et de regarder tout ce qui apparaît, etc., etc., on finit par être un peu prisonnier de cette petite tentation de voir qu'est-ce qui est nouveau et aussi quelle est la pensée nouvelle qui peut surgir. Donc, il faut s'observer en train d'être distrait et de se dire, voilà, c'est normal qu'il y ait des petites perturbations, mais je peux me refocaliser sur ce que je veux faire.
Ce que vous appelez faire attention à son attention.
Voilà. C'est ça.
Bon, on va définir les termes. Alors, attention pour tout le monde. Claire, vous avez une définition?
Alors, l'attention, en fait, c'est la capacité de notre esprit à nous saisir d'un élément, d'une situation, d'une interaction, un objet, par rapport à une multitude d'autres stimulations que notre cerveau reçoit. On a 36 milliards de neurones à peu près. Malgré ça, on ne peut pas capter toute l'information qui nous arrive. Donc, dans tout ce qui nous entoure, il y a des éléments qui vont être saillants, soit parce qu'ils sont nouveaux, comme le disait Didier, soit parce qu'ils correspondent à des choses que nous aimons, que nous apprécions, qui sont importantes pour nous. Et donc, ils capturent notre attention. Donc, à ce moment-là, notre cerveau, lui, il va traiter cette information, il va se centrer là-dessus, et donc ensuite, il va s'en saisir pour faire autre chose.
Différence avec la concentration. Alors, l'attention et la concentration, c'est quoi la différence?
La concentration, c'est un mouvement volontaire de se focaliser sur un sujet, ou sur une pensée, sur un travail, sur une lecture, qui demande un peu une perspective à moyen terme, en se disant, ma satisfaction va être décalée dans le temps. Alors que si on réagit trop vite à une tentation, eh bien c'est une satisfaction immédiate qui vient activer le circuit de la récompense qui nous fait un petit plaisir. Donc là, la satisfaction est différée, mais on se dit, voilà, ça vaut le coup que je me focalise un certain temps, et c'est un geste un peu volontaire, mais ça marche bien si on est motivé, en fait. Il faut être motivé pour pouvoir bien se concentrer.
Après, il y a aussi une question de discipline. Il y a des gens qui se concentrent très très bien partout, qui arrivent à s'isoler, à passer en mode alpha ou en mode tout ce que vous voulez, très très rapidement. Ou alors ils ont un casque avec des bruits blancs. Enfin, en tout cas, ils arrivent à faire abstraction de leur environnement très facilement.
Oui, on peut s'organiser. On peut se protéger, être dans un environnement qui va favoriser ça, parce qu'il y a des lieux pour le faire. Et puis, on prévient les personnes de son entourage. On dit ne pas déranger. Et soi-même, on s'arrange pour avoir un bureau qui est bien rangé, où il n'y a pas quelque chose qui va nous distraire, parce qu'on voit, tiens, mais oui, il y a ça que je devrais regarder. Donc, il y a une organisation qui peut favoriser ça. Mais c'est aussi une organisation avec les autres, pour que tout le monde joue le jeu de ne pas se perturber mutuellement, ne pas se distraire mutuellement.
Alors ça, c'est vrai en famille, en entreprise, partout. Vous, votre livre est orienté entreprise, même dirigeant, beaucoup pour les personnes qui ont à manager des équipes, mais c'est vrai que c'est valable pour toutes les situations de la vie.
C'est absolument utilisable. Tout ce qu'on raconte dans le livre est utilisable dans votre quotidien. Et vous pouvez décider, vous, d'appliquer tout un tas d'idées, de principes. Comprendre comment ça marche, c'est utile.
Alors, montrez le livre, puisque l'émission est filmée. Vous avez coécrit donc L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction, aux éditions Erol. Et on parle de votre attention ce matin jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, l'art de l'attention, on en parle ce matin. C'est tout un art, d'être attentif, se concentrer dans un environnement de distraction chez Erol. Il y a un exemple que vous prenez dans votre livre qui est flagrant. C'est celui le contrôleur aérien. Ah. Celui qui travaille dans une tour de contrôle. Comment est-ce qu'ils sont recrutés?
Alors, d'abord, donc, Bastien Bernard, qui a témoigné dans le livre, il nous explique qu'en France, le recrutement, il est plutôt basé sur les études. C'est pas le cas dans tous les pays. Dans d'autres pays, c'est plutôt sur des aptitudes. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a une sélection sur les aptitudes. C'est pas le cas chez nous. À partir de ce recrutement-là, en fait, ils sont entraînés et je dirais mis en situation d'entraîner leur attention, parce que comme il l'explique très bien, un contrôleur aérien, il doit traiter plusieurs informations de manière simultanée, à la fois des informations qui sont visuelles, donc s'il est en tour de contrôle et qu'il voit la piste, informations extérieures, des informations qui sont sur son papier, le pilote qui est dans donc son casque, et aussi la personne qui l'assiste en direct. Donc à certains moments, il peut avoir toutes les informations qui arrivent en même temps, et comme il l'explique très très bien, l'attention, ils apprennent eux des automatismes pour pouvoir diviser des choses qu'ils entendent et des choses qu'ils lisent, des choses qu'ils voient. C'est un travail très très exigeant et très fatigant. Moi, je suis très admirative des gens qui font ce genre de métier, mais ça s'entraîne en fait.
Et tout à l'heure, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, hein, c'est oui. Que l'attention, ça se travaille et ça s'entraîne.
Absolument, ouais. Absolument. Tout à l'heure, Didier, enfin dans la question que vous posiez, Philippe, il faut avoir en tête que se connaître soi, savoir comment on fonctionne, c'est notre plus grand allié. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un à la base de plutôt rêveur, et donc j'ai tendance, et depuis toujours, j'avais ça sur mes bulletins scolaires. Donc j'ai appris à, on va dire, canaliser mon attention, j'ai appris à l'orienter plus comme je le souhaitais pour aller là où j'avais envie d'aller. Mais ma base, c'est pas ça. Ma base, c'est de regarder tout ce qui se passe et d'être attirée par tout ce qui est autour. Donc je suis encore plus vigilante à ça. Donc je laisse mon téléphone de côté. Quand mes enfants viennent me voir, ben, je leur demande, et qu'ils ont quelque chose à me demander, je leur demande justement de vérifier que je suis bien connectée à eux. Dans mon travail, et notamment en coaching, je suis hyper vigilante à moi, mon état, à ma fatigue, pour être vraiment connectée à la personne, être complètement dédiée, au-delà de l'écoute qui fait partie.
Parce que l'attention, ça se vit au présent.
Complètement.
C'est ça qu'il faut comprendre. Hein.
Complètement. Et en même temps, notre capacité à être sans arrêt, donc à la fois appuyé sur des éléments qui font partie de notre histoire et de notre passé, de notre expérience, et en même temps capable de se projeter dans l'avenir, c'est ça qui fait qu'on a ces pensées en permanence, mais en même temps, c'est une des clés de notre développement. Et il y a un merveilleux livre qui s'appelle The Good Life et qui parle, je ne sais pas si vous l'avez lu, Philippe, mais qui parle, en fait, c'est la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur. Donc, c'est une étude qui dure depuis 80 ans et qui explique ça, qui explique que notre attention, elle est aussi traversée par ces pensées, qu'en fait, c'est normal.
Mais si on revient sur notre contrôleur aérien, il est plus vigilant qu'attentif ou plus attentif que vigilant ?
Il a des phénomènes de concentration variables dans le temps, parce que il le dit lui-même, on peut pas être à 100% concentré en permanence. Donc il y a aussi une forme de vigilance à avoir et puis une remobilisation lorsque c'est nécessaire. Mais ça varie, on peut pas être constant dans l'effort de concentration qu'il peut avoir. Quoi. Mais plus il est entraîné, plus ça devient facile pour lui de se dire « là, il faut que je sois très attentif » ou « là, ça va moins mobiliser mon attention ». Ça, c'est l'expérience qui l'aide à vivre ces variations.
Le contrôleur, c'est celui qui va sélectionner efficacement la première solution qui lui paraît fonctionner, même si ce n'est pas la meilleure. Oui. Donc ça veut dire qu'il va faire un choix.
Oui, exactement. Et il parle en fait de la notion de risque. Il explique que les jeunes contrôleurs qui démarrent, ils cherchent en fait à traiter toute l'information, à tout optimiser. Et avec l'expérience, c'est une attitude qui change. C'est-à-dire qu'au final, un contrôleur qui a de l'expérience, il accepte de laisser de côté un certain nombre de choses et de prendre certains risques. Parce que au moment où il a trouvé la meilleure solution, c'est ça qui va faire son efficacité. C'est la première meilleure solution qui émerge. Voilà. Il va être rapide dans cette façon de faire.
Et après, il y a tout ce qu'on ne prévoit pas, les orages, les... voilà, il y a tout ce qu'il faut gérer.
Exactement, il explique.
Qui est imprévisible. moi, ça me fascine. Je veux dire que d'avoir la pensée comme ça, toujours d'être... est-ce qu'ils sont multitâches?
Alors, c'est ce qu'il explique, en fait. Les seules choses où on peut se dire multitâche, c'est quand une des tâches est automatisée, le langage, la marche. Et pour eux, une forme de routine. Il explique que ce qui fait leur capacité à être performant dans leur activité, c'est qu'ils se construisent une forme de routine. Et je pense qu'elle peut être partagée, mais elle est aussi très liée à la personne. Il disait qu'ils avaient travaillé notamment sur la manière de rendre l'information immédiatement accessible, plus accessible.
Pour les autres contrôleurs d'ailleurs.
Exactement.
Ils ont beaucoup travaillé.
Même les écrans, ils ont changé aussi les couleurs de leurs écrans.
Avant, c'était vert, hein, les radars. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, les images qu'on avait, c'était vert.
Ça a changé.
Ils ont rajouté un peu de couleur.
Un petit peu de couleur, oui.
Alors, il parle de ce qu'on appelle l'effet tunnel, un effet qu'on retrouve notamment chez les chirurgiens aussi. Qu'est-ce qu'on appelle l'effet tunnel ?
Exactement.
Et pourquoi c'est dangereux, cet effet tunnel ?
Alors ça, c'est Anne Daoudal, donc, la chirurgienne qui a gentiment témoigné. Elle explique en fait que quand ils sont hyper concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire, tout d'un coup, il y a une sorte de disparition de tout ce qui est autour. Et le seul, c'est comme une ultra-focalisation, si vous voulez. Et la seule chose qui compte, elle dit, c'est réparer. Je vais y arriver, je vais aller jusqu'au bout. Donc, il n'y a plus... Tous les stimuli extérieurs disparaissent. Il n'y a plus qu'une centration sur ce qu'elle est en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, et aller jusqu'au bout. Et elle dit, là, ce qu'il faut développer, c'est la capacité de l'équipe à fonctionner de manière complètement synergique. Et donc, pour le chirurgien d'écouter ce qui se passe, donc son anesthésiste, sa penseuse, son penseur, etc. Parce que c'est ça qui va faire que on va sortir de cet effet tunnel.
Oui, c'est parce que quand on est dans une bulle, c'est normal que cette bulle soit un peu percée. C'est une question de survie. Sinon, on court un risque de se faire écraser par une voiture. Donc, ça serait complètement dangereux d'être dans une bulle complètement imperméable.
Mais ça, c'est les automatismes qu'on a développés, on va dire, pour traverser une rue ou pour...
Oui, mais disons que c'est normal qu'un son vienne nous frapper et nous sorte de notre bulle. Sinon, ça serait dangereux pour nous si on était complètement hermétique. Donc, l'effet tunnel est très efficace pour mener à bien une tâche, mais les collègues peuvent jouer un rôle pour nous dire « alerte, là, il y a le sang, il y a quelque chose qui se passe ».
C'est pas du pilotage automatique, l'effet tunnel ?
Non.
Non.
Ah non, non, c'est vraiment... j'appellerais ça hyper concentration en fait. On pourrait relier ça d'une autre manière au flow
l'état de flow donc.
Exactement, l'état de flow qui est une sorte d'hyper concentration. Vous perdez la notion du temps. Vous êtes complètement absorbé dans la tâche qui vous occupe et normalement dans une hyper efficacité aussi et un sentiment vraiment de pleine réalisation. C'est quelque chose d'hyper agréable.
Mais on peut l'éprouver aussi en lisant un livre passionne.
Bien sûr.
Tout le monde peut être dans cet état de flow lorsque l'on fait quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc c'est pas du tout inaccessible. Mais encore faut-il être sur quelque chose qui nous motive, qui nous passionne. Et on se laisse embarquer dans cette hyper-attention.
L'attention est présente à chaque instant dans notre vie. Hein. Et d'ailleurs, une minute d'inattention... Et ça peut être la catastrophe.
Oui. Malheureusement, oui. C'est pour ça que le sujet est si important. C'est pour ça que faire attention à son attention, ça nous concerne tous. Et le simple fait d'en avoir conscience, ça peut améliorer beaucoup de choses. Moi, je pense que quand on a réalisé que dans la vie, savoir que l'attention, c'est ce qui oriente notre action... c'est ce qui nous amène là où on veut aller, mais c'est aussi ce qui peut nous éviter des catastrophes, en effet. On parlait de traverser la rue, ne pas être attentif à une personne qui ne va pas bien. Je vais prendre un autre exemple, on n'a pas vu les signaux, juste parce qu'on n'a pas prêté attention à cette personne-là. Ça peut être ça aussi.
Oui. Il y a une dimension importante sur les relations avec les personnes. Prêter attention à quelqu'un. Alors justement, tout ce qu'on évoquait sur les téléphones portables, etc., ça nous rend moins attentifs aux autres. Il y a des études qui mettent en évidence que vraiment l'empathie est un phénomène qui chute, qui se dégrade avec la multiplication des usages des écrans. Donc ça, c'est assez inquiétant. C'est pour ça que c'est très important de savoir s'éloigner de son téléphone... pour se consacrer à ce qu'on veut faire et en particulier développer des relations avec les personnes.
Et comment on s'éloigne de son téléphone ? Parce que tout le monde en est un peu conscient de ça, vous voyez.
Là, il y a des choses simples, hein, comme le retourner, l'enfermer dans une boîte. Aussi, on peut supprimer les notifications. Mais c'est aussi un effort collectif à faire. Que ça soit dans une entreprise ou en famille, si on ne se donne pas des règles de vie un peu communes, eh bien, c'est très difficile tout seul de changer les habitudes. Parce que ce sont des habitudes vraiment collectives. Donc il y a des choses à entreprendre. Et par rapport à ce qui se passe dans l'éducation nationale, on voit aussi un certain nombre d'enseignants qui disent mais il faut absolument renverser la vapeur, il faut revenir aux livres et se dégager des écrans. Et il y a des groupes d'enseignants, il y a des groupes de parents aussi qui se disent comment réussir collectivement à s'éloigner un petit peu des écrans pour pouvoir mieux vivre.
Il y a ce merveilleux livre de Jean-Philippe Lachaud, L'attention, ça s'apprend, et le programme Atoll, donc, qui se déploie dans les écoles.
Vous citez beaucoup dans votre livre. Mm.
Oui, parce que c'est le chercheur.
Très inspirant. C'est une référence, hein, Jean-Philippe Lachaud, sur l'attention. Il nous inspirait évidemment dans notre travail, mais moi je suis très impressionnée par le travail fait par rapport à l'enseignement, parce que quand on lit ses livres, et je pense à l'art de l'attention en particulier, je trouve que c'est aussi bien utile pour les enseignants que pour les élèves. Donc c'est remarquable de réussir à passer ce genre de message, et puis c'est hyper pratique. Il y a beaucoup de, dans ce qu'il explique, il y a beaucoup de choses. Nous, on a cherché à faire ça dans un univers un peu différent, parce qu'on observe aussi qu'il y a un véritable besoin. Ça fait 23 ans que je fais ce métier d'accompagnement. J'ai plus du tout la même attention de la part des personnes qui sont avec moi dans des ateliers, des séminaires, etc. C'est
compliqué de capter et de garder l'attention des gens.
Oh, bah, oui, c'est même presque un autre sujet. La capter grâce à Régis, donc notre co-auteur qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui.
Qui est magicien.
Hein. Alors voilà, il est illusionniste.
Illusionniste,
conférencier. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux qui sait justement capter votre attention. Vous avez une montre, Philippe? Vous ne l'auriez plus si vous en aviez une, s'il avait été là avec nous dans le studio. Mais bref, c'est une capacité qu'il a développée et il nous a appris des choses d'ailleurs.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous a appris?
Ah bah justement, dans la manière de capter l'attention, des astuces par rapport à l'utilisation du ton de notre voix, par rapport au regard, par rapport au fait de proposer quelque chose de captivant à la personne qui est en face de nous. Il nous fait ça sans arrêt.
Oui, et comment détourner l'attention.
C'est ça, c'est détourner l'attention. Pendant que vous avez l'attention, l'esprit ailleurs, on fait autre chose.
C'est ça.
L'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction aux éditions Erol. On parle de votre attention jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on parle de l'art de l'attention ce matin, comment se concentrer dans un environnement de distraction aux éditions Erol avec mes deux invités, Claire Lauzol et Didier Noyer. Alors Didier, vous étiez en train de nous parler des outils, notamment des applications. Certaines applications seraient peut-être meilleures que d'autres.
Disons surtout qu'elles ont une influence sur notre façon de penser. C'est un petit peu l'idée que le médium est le message. Le médium nous imprègne. Par exemple, si on regarde Twitter, qui est devenu X, eh bien, qu'est-ce que ça nous délivre comme message? Eh bien, ne vous focalisez pas trop longtemps sur quelque chose. Le monde peut être compris avec des affirmations simples, rapides, qui tiennent en 280 caractères. Et ce qui va être important, c'est de voir si les autres approuvent vos messages. Tout ça fonctionne très vite. Alors, c'est un peu un déni de la complexité. Autre chose, par exemple, Facebook. Qu'est-ce que ça véhicule comme message? Ça nous dit que le but dans l'existence, c'est de faire connaître son expérience, ce qu'on vit. Et ce qui va être intéressant, c'est, une fois qu'on l'a publié, est-ce que les autres, ils aiment ça? Un ami, c'est quelqu'un qui suit tout ce que je publie, et puis moi-même, je vais suivre tout ce qu'il publie. Donc, ça finit par nous imprégner. Vous avez aussi des applications d'évaluation. On va peut-être évaluer le livre, la livraison de pizza, votre émission. Et si vous voulez, les gens ont soif...
Le chauffeur Uber, le médecin chez qui on va aujourd'hui.
Ouais. Les gens ont soif de reconnaissance, et ils reçoivent surtout de l'évaluation.
Et ça, ils s'en rendent pas compte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est évalué toute notre vie.
Et oui. Et ça, c'est l'application qui nous conduit à trouver que c'est normal d'être évalué, d'évaluer, etc. Donc, ça a une influence. Voilà, les applications, les outils ont une influence au-delà des messages qui sont véhiculés par ces outils.
Qu'est-ce qui menace notre attention?
Tellement de choses.
Qui sont les voleurs d'attention?
Tellement de choses.
Ah ben c'est les géants du numérique qui vont faire de l'argent en captivant, en captant notre attention. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Mmh. Eux, ils ont été pensés pour ça. Hein. Attention, c'est clair.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, oui, et en même temps, on a eu ce débat, nous, entre nous tous les trois, dans la manière dont on écrivait. On était en train d'aller assez fort sur cet axe-là. Je dis, mais attention, il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je veux bien que la manière dont les GAFA ont évolué, ça soit ça, c'est vrai, mais à la base, ce n'était pas tout à fait le projet. Et même, hein, si on regarde tous les outils numériques qu'on utilise, on a parlé du smartphone, on a parlé des mails, etc., à la base, ils étaient quand même conçus pour nous faciliter la vie. Et la réalité, la majorité des situations, c'est quand même ça. C'est ce qui se passe. Le sujet, le vrai problème, c'est la manière dont aujourd'hui, notre attention est marchandisée, c'est-à-dire qu'elle a une valeur, puisque à partir du moment tous les médias cherchent à la capter. Une fois qu'elle est captée, à l'entraîner à un endroit où elle va pouvoir se transformer en quelque chose de sonnant et trébuchant. Donc si on n'a pas conscience
de ça... Oui, il faut la monétiser. Donc,
mais voilà. Ouais. Si on n'a pas conscience de ça, on a raté quelque chose. On s'est laissé manipuler, on s'est laissé embarquer. Après, on peut choisir de le faire volontairement. Il y a des applications, vous marchez, vous recevez de l'argent, vous répondez à un sondage, vous recevez de l'argent. Si vous le faites en connaissance de cause... J'ai envie de dire, pourquoi pas? Mais le vrai problème, c'est quand vous, votre attention, elle est utilisée quasiment à votre insu pour voir ce qui vous intéresse et du coup aller vous proposer du contenu qui correspond à vos centres d'intérêt. Ça vous est arrivé de recevoir une espèce de pub qui est en lien avec quelque chose que vous avez observé, consulté sur le net avant. Ben, vous ne l'avez pas demandé, ce truc-là.
Non, sans permanence.
Voilà. Ouais. C'est comme ça que
ça fonctionne. Il précède même vos désirs, d'ailleurs. Même
c'est
souvent,
ça.
Vous vous dites, c'est pas possible, ils sont dans ma tête.
C'est ça. Oui, mais parce que c'est la manière dont votre attention a été focalisée, qui est captée, qui est réutilisée en traitant les datas, les données.
Alors, ce qui nous menace, ce sont les automatismes aussi et nos habitudes.
Ah.
À part Fodil Belhamri qui réalise cette émission et qui vérifie 10 fois s'il a bien fermé le gaz, normalement, c'est un automatisme, ça. On est d'accord. Le gaz, quand on le ferme, c'est un automatisme. Non? Ah non. Non, parce que lui, il vérifie 10 fois et après, il prend une photo pour vérifier. Il prend une photo pour être sûr, après, pour se rassurer qu'il a bien éteint. C'est pas automatisé, ces tâches-là?
Quand c'est complètement automatisé, finalement, on a un petit peu du mal à se rendre compte si on l'a vraiment fait ou pas. C'est ça qui est un petit peu délicat.
Oui. Ben c'est vrai, ça vous est bien arrivé, vous quittez votre maison, vous pensez que vous avez fermé, mais après, vous êtes parti, vous êtes dans la rue, vous dites... Mais est-ce que j'ai vraiment fermé?
Non, mais ça, c'est un toc. Non, ça, c'est un toc. Vous souffrez de toc.
Si peut-être,
c'est...
peut-être.
On est atteint. Oui,
non, mais
aussi.
Parce que... Non, parce que si ça vous fait revenir.
Ah oui.
Non.
Pour aller vérifier que vous avez bien fermé, ça, c'est un toc.
Non, ça, d'accord. Mais la question que vous vous posez en étant plus sûr, parce que c'est automatisé, c'est-à-dire que vous n'aviez même pas conscience que vous étiez en train de fermer, de faire le geste, de retirer la clé de la serrure, c'est ça dont je parle.
Mais si vous le faites une fois que vous êtes dans l'avion pour partir en vacances, c'est mort.
Hein. Voilà,
c'est foutu. Là.
C'est ça.
Est-ce que j'ai bien fermé la porte?
Mais c'est bien d'être à ce qu'on fait. Et de l'avoir complètement automatisé risque finalement de nous perturber, d'oublier une fois sur 50. Donc être à ce qu'on fait, même si on est déjà un peu automatisé dans nos gestes.
Mais qu'est-ce que vous conseillez? Des checklists?
Alors ça peut, notamment tout à l'heure on parlait de ces fameuses pensées qui n'arrêtent pas de nous traverser, qui peuvent être parasites, etc. Quand vous avez trop de choses dans la tête, ça peut devenir une difficulté, ça peut vous empêcher justement d'être à ce que vous faites, d'être concentré, de réaliser correctement la tâche qui vous occupe, etc. Donc une manière de faire très simple, c'est de poser sur le papier ce qui est dans votre tête, vous le déposez et... Encore mieux dans le milieu de l'entreprise, dans votre travail, c'est de le mettre dans votre agenda, c'est de l'organiser. Parce que, en plus, ça va devenir réaliste. La liste, elle est utile parce que ça n'est plus un parasite dans votre tête, mais elle n'est pas forcément opérationnelle. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sur le papier, ça peut juste rester sur le papier. Alors que si c'est organisé dans votre agenda, là, ça va devenir réaliste, ça va se transformer en quelque chose, une action, un contact, etc.
Qu'est-ce que vous appelez la cécité attentionnelle ?
Ah, c'est Régis qui aurait dû répondre à cette question, Didier.
Oui, c'est parce que c'est le fait que on ne va pas pouvoir être attentif à tout. Et justement, Régis, dans un tour d'illusionniste, si il attire notre attention sur quelque chose, eh bien, il y a quelque chose d'énorme qu'on ne va pas voir à côté.
Ils changent de veste, ils changent la couleur de la nappe de la table, le rideau qui était derrière a disparu.
Parce qu'il a su concentrer notre attention sur, par exemple, ce qu'on était en train de dire, ou certains gestes. Donc c'est normal cette cécité attentionnelle, et alors lui il la provoque volontairement pour nous jouer des tours.
Mais... Il y a le petit exercice avec Dumbledore et magicien là aussi, tu sais, dans le bouquin, oui. qui est proposé dans les plus du livre. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Vous l'avez fait, Philippe?
J'ai pas celui-là.
Pas celui-là. Faites-le, vous allez voir. C'est...
Non, mais c'est un QR code, oui, c'est oui, ça. Alors moi, oui. je suis pas geek.
Moi, j'ai fait
les basiques. Vous voyez, j'ai fait le bus, j'ai fait les rébus. Enfin ouais.
C'est déjà super.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà super.
Je me suis tracassé pour trouver, pour voir si mon attention fonctionnait bien.
Mm-hmm. Et alors?
Ça va, c'est bien.
Ça va plutôt pas mal.
Mais j'ai pas fait le...
Donc faites ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant. En gros, il vous donne une consigne, vous devez faire deux choses en parallèle, deux choses en même temps, et en fait, c'est pas possible. Voilà.
Comme on l'a vu tout à l'heure, le cerveau n'est pas multitâche.
Arrêtez de torturer votre cerveau.
Rappelez-nous ce qui se passe dans le cerveau quand on pense qu'on est multitâche. Je pense à mesdames qui pensent qu'elles peuvent faire deux choses à la fois. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps.
Oui.
Les femmes peuvent faire deux choses à la fois, pas les hommes.
Oui, alors ça, c'est bien qu'on tue un peu cette espèce de mythe qui sépare les hommes et les femmes. Non, on ne fait pas deux choses en même temps. Encore une fois, votre cerveau, pour faire correctement une chose, il doit se concentrer, il doit avoir une intention à partir d'une perception X ou Y. Et donc, concentrer son attention pour agir, c'est difficile de le faire sur deux choses en parallèle. Voilà.
Mais là où les personnes sont différentes, c'est que si je passe de A à B, et de B, je reviens à A, peut-être une personne a besoin de beaucoup de temps pour revenir à un sujet, et une autre y arrive plus rapidement. Donc c'est là où il y a des différences humaines. Mais même si ça se passe très vite, on n'arrête pas de...
Il y a une autre différence, c'est aussi l'état de fatigue. Il l'explique très bien, Bastien Bernard, dans votre état de fatigue. Ça va augmenter énormément ce temps nécessaire pour se refocaliser sur la tâche que vous avez quittée.
Moi, c'est mon obsession, c'est ceux qui qui répondent au téléphone ou qui envoient des SMS au volant.
Ah oui, c'est un danger mortel, il y a beaucoup d'accidents.
Non, mais qui pensent qu'ils peuvent le faire.
C'est ça. Quand vous êtes dans un taxi et que le taxi fait ça vous est arrivé, chauffeur Uber, etc. Moi, je suis comme ça.
Oui, ça a à voir avec la sécurité.
Alors, je ne vais pas leur tendre le livre en leur disant « Lisez ce livre, vous verrez, vous arrêterez de faire ça », mais...
Le cerveau ne peut pas.
Non.
Même si vous êtes agile, habile, tout ce que vous voulez, non.
Non, ce n'est pas possible. Il y a un moment où vous avez besoin, voilà. Alors peut-être quand votre voiture sera complètement autonome, oui, vous pourrez faire autre chose, mais pour le moment, non.
Bon, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils de l'attention?
Des recommandations. Alors, il y a quand même des recommandations collectives, notamment dans une organisation, dans une entreprise, déjà, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut que les gens se rendent compte de l'inefficacité qui est provoquée par les habitudes collectives. Et puis, il y a des règles du jeu à se donner, par exemple, sur la gestion des mails. C'est une grosse erreur de considérer qu'il faut répondre immédiatement. C'est un outil asynchrone. Donc, c'est tout à fait normal de se dire, je les regarde, on choisit deux fois dans la journée de regarder ses mails, par exemple.
Vous dites que l'erreur, c'est de commencer la journée par lire ses mails.
Oui. Il faut commencer.
C'est la première chose que je fais, moi. Alors là, j'arrive, lis mes mails.
Non, il faut commencer par ce qui est vraiment important dans mon travail. C'est vraiment essentiel.
Mais moi, j'arrive tôt pour lire mes mails, en fait j'arrive plus tôt pour lire mes mails. Vous voyez, donc je me dis, je me prends un temps en me disant, au moins c'est fait, c'est débarrassé.
La règle du jeu, c'est que s'il y a quelque chose d'urgent, il ne faut pas le dire par mail. Donc il y a des règles à se donner collectivement sur comment on communique. De même, par exemple,
si c'est urgent, on s'appelle. C'est ça que vous voulez dire.
Oui, c'est ça.
Il y a au moins deux niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes typiquement là sur autre chose, mais il y aurait quelque chose qui se passerait, vous pourriez recevoir un SMS. Vous voyez, vous êtes dans une réunion, vous recevez un SMS, c'est votre fils justement qui est tombé dans la cour. Bon, ben voilà. Et là, vous savez ce que vous pouvez faire. Mais l'appel, c'est mieux. Venir voir la personne, c'est encore mieux. Tout ce qui va privilégier le contact direct pour traiter urgemment quelque chose d'important.
Et les mails, c'est deux fois par jour.
Oui, oui, oui.
On les traite deux fois par jour et on répond pas du tac au tac.
Par exemple, ça peut être une règle du jeu. Et puis, s'il y a un sujet un petit peu sensible, délicat, il faut surtout pas le traiter par mail, parce que sinon, les échanges de ping-pong, etc., et le conflit s'aggrave. En aucun cas, les sujets sensibles par mail.
Si vous saviez le nombre d'histoires en entreprise, juste à cause de la manière dont le mail a été rédigé, la façon dont la personne a répondu une fois, deux fois, trois fois, ça a fait 10 tours. Enfin,
alors que tout est dans l'ordre du mail. Voilà. Apprenez à rédiger des ordres de mail. Non, c'est un secret, ça.
Oui, c'est vrai. C'est une bonne pratique, on va dire.
Mon mail n'attend pas une réponse urgente.
C'est ça.
Oui, et puis on peut aussi se donner des rendez-vous par téléphone pour ne pas être interrompu toujours par un coup de fil qui vient me perturber pendant mon travail. Il faut protéger des temps de déconnexion pour être plus tranquille, pour se concentrer sur son travail.
La suite est dans votre livre, L'art de l'attention, coécrit avec Régis Rossi. Se concentrer dans un environnement de distraction aux éditions Erol. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci Philippe.
Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast, vous serez distrait, mais c'est bien. Sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent cette émission, et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci et très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.